des jeunes billets aux négligences, alors cela, à un moment donné, pousse l'enfant d'aller dans la rue. Et donc, ça, ce qu'on appelle, nous, ça prend un basculement. Et c'est un départ pour l'enfant et sa famille pour se sauver, c'est une fuite en avant. Donc, on va dire que les enfants et jeunes dits de la rue n'ont pas quitté leur famille pour vivre dans la rue. Mais c'est en raison des violences intrafamiliales. Et à défaut d'autres alternatives, qu'ils vivent dans la rue.
Ok, donc cela rejoint la remarque de Médard du Rocher-Beau qui a dit que la rue n'a pas des enfants, ce sont les enfants en conflit avec leur famille. Et Bintoumba aussi, lui, dit qu'il préfère les termes d'enfants abandonnés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Déjà, même les enfants, lorsque certains les appellent enfants de rue ou enfants dits de la rue, quand ils entendent ça, ils rient de la sorte hein, que la rue ne fait pas des enfants. Effectivement, et dire les enfants abandonnés, mais l'idée ici de pouvoir trouver une terminologie n'est pas de pouvoir transformer les enfants ou les résumer en un objet sur lequel on va devoir travailler, mais plutôt c'est de mettre un peu en lumière la spécificité de la situation à laquelle ces enfants se retrouvent. Donc, les enfants, oui, ils sont abandonnés, on peut le dire, mais cela est un peu trop simpliste. Il faut préciser en disant que ces enfants sont victimes des violences intrafamiliales et que c'est à cause de ces situations-là qu'ils se retrouvent dans la rue.
Ok, merci beaucoup. Nous allons nous tourner vers le docteur Ngali pour qu'il nous explique en quoi consiste la prise en charge médicale dont bénéficient ces enfants de la rue à Pointe-Noire.
Oui, d'accord. Donc, je disais que la prise en charge avait trois volets. Le premier volet consiste à aller vers les lieux de vie des enfants, et voilà, à travers des équipes de maraude. Et ces équipes de maraude ont des véhicules qui ont de l'espace intérieur permettant de réaliser les soins et les entretiens médicaux dans le respect de la... ça veut dire qu'en respectant de la confidentialité. Et cela se faisait 7 jours sur 7. Et le deuxième volet, on était à organiser des consultations au centre d'hébergement avec soins infirmiers et psychologiques, qu'on appelle le CHUSIP. Et là, nous recevions des enfants de l'extérieur qui ont des soucis médicaux, qui viennent effectivement pour une consultation médicale. Et nous pouvons également ici prendre en charge des enfants qui sont hébergés au centre, qui ont des problèmes médicaux, ou bien qui ont été gardés pour des raisons psychologiques, sociales, ou bien médicales. Voilà, donc s'ils ont un souci médical, on les prend en charge. Et le troisième volet consistera en fait, à juger en fait selon le cas si il faudrait que l'enfant soit pris en charge au centre ou bien le référer en fait, le référer dans un service où il aura les meilleurs soins. Donc c'est du cas par cas, là où nous pouvons prendre en charge au centre, effectivement nous le gardons au centre. Là où les soins peuvent être administrés dans les véhicules de maraude, ben voilà, les soins se font dans le maraude. Et quand les deux possibilités ne sont pas réalisables, donc nous, effectivement, nous envoyons l'enfant dans un centre voilà, où il aura le meilleur soin. C'est ce que nous appelons par référencement.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Nous revenons vers M. Ntonta. Combien d'enfants sont concernés dans ces opérations de prise en charge médicale et psychosociale?
Oui, donc combien d'enfants? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord rappeler un peu de qui sont réellement ces enfants pour donner un nombre. Alors d'abord, le CESA de Pointe-Noire, nous rencontrons les enfants qui passent leur journée dans la rue en train de travailler, soit dans les marchés, par exemple, où ils aident les vendeurs du marché. Les enfants ne vont pas à l'école, mais la nuit venue, ils rentrent chez eux. Ces enfants sont dans la rue principalement pour des raisons économiques. Donc, ils contribuent, ce faisant, à l'économie familiale. Nous rencontrons également des enfants qui sont en compagnie de leurs parents. c'est-à-dire des familles en rue, hein, dont les parents sont derrière. Ils survivent par la mendicité. Et généralement, ces familles ont un toit où dormir. Et vient une troisième catégorie d'enfants que nous rencontrons, ce sont les enfants qui vivent en permanence dans la rue, de jour comme de nuit, et qui sont en rupture avec leur famille, mais aussi avec les institutions. Donc c'est de ces enfants-là que nous voulons parler ici, qui constituent la cible principale de Samuel Pot Noir. Donc les enfants qui vivent en permanence dans la rue, le jour comme la nuit, et qui sont en rupture avec la famille. Et alors, combien sont-ils? Alors, à l'absence des données fiables hein, à l'échelle nationale, nous avons des données que nous avons recueillies lorsque nous faisons des maraudes auprès des enfants. Donc, ce sont des données du Samuel Pot Noir qui sont communiquées à titre indicatif. Donc, par exemple, depuis 2006, qui est la date de création du Samuel Pot Noir, jusqu'à ce jour, le SAMU a identifié ou a pris en charge plus de 2800 enfants. Mais chaque année, en moyenne, nous prenons 500 enfants en charge, qu'elles soient sur le plan médical ou psychosocial. Et aussi, une autre donnée importante, c'est le flux d'arrivées annuel des enfants. Entre 2010 et 2014, voilà, le flux annuel d'arrivées en rue était à une moyenne de 132 enfants. Tandis que les 5 dernières années, il a presque doublé, sur une moyenne annuelle de 210 nouveaux enfants. Et on veut aussi communiquer aussi une donnée qui revient du RIPER, qui est le réseau d'intervenant sur le phénomène des enfants en rupture au Congo. Aux années 2017, le RIPER estimait à 1900 le nombre d'enfants en situation de rupture familiale et de marginalisation sévère vivant en rue et échappant à tout dispositif public de suivi et d'appui social. Donc voilà, ce sont à titre indicatif. Mais toute cette population des enfants que nous rencontrons concerne tant les garçons que les filles.
Il y a un autre auditeur, Alphonse Mouassi, qui veut savoir comment financez-vous les frais médicaux de ces enfants.
Alors, nous sommes donc une association congolaise à but non lucratif. Donc nous fonctionnant avec l'aide des dons, des subventions, des financements. Et donc, pour financer les frais médicaux, nous avons des financements, nous recevons des financements d'origine publique et privée. Quand du public, par exemple, nous répondons aux appels à projets de bailleurs internationaux comme l'Union européenne et privé. Toujours en parlant public, il y a aussi la mairie de Pot-Noir hein, qui... d'ailleurs, c'est à l'initiative de la mairie de Pot-Noir que le SAMU a été créé. Et depuis sa création, la mairie de Pot-Noir soutient le SAMU de Pot-Noir, tant que financièrement. Et nous avons également, comme j'ai dit, hein, des financements d'origine privée, qui sont des entreprises de la place, qui effectivement qui viennent en aide pour que nous, on vienne en aide aux enfants.
Alors, M. Herrera Bisukumono, en tant que psychologue, vous, à quelles difficultés êtes-vous confronté dans la prise en charge psychosociale des enfants de la rue à Pointe-Noire?
Une fois de plus, merci madame. Les difficultés, en fait, ça suit toujours cette logique-là parce que vous savez, c'est une prise en charge qui est globale. Donc, du point de vue psychosocial, notons que la complexité des effets psychiques des processus de désaffiliation, par exemple, familiale et de désocialisation, les fragilités ou cassures psychiques liées au vécu traumatique amènent ces enfants à des perturbations des fondations subjectives du temps, de l'espace, de l'ouïe et du corps, parce que leur pensée, comme ce que je venais de dire, en rue est très fort. Et donc cela se constitue un tableau que nous appelons la désocialisation. Donc en fait, les enfants vont perdre tout ce qu'ils ont appris en famille, et donc ils vont s'installer dans ce tableau que nous appelons la désocialisation, qui explique en fait les comportements des enfants en rue. Et face à toutes ces situations, donc à ce tableau qui explique comment est-ce que les enfants, les rapports sont modifiés au temps, à l'espace, à autrui, Évidemment, nous avons des difficultés du genre lorsque vous avez fixé, par exemple, un suivi thérapeutique avec un enfant. Il est très difficile de pouvoir respecter parce que son rapport au temps est modifié, son rapport à l'espace est modifié et en fonction des besoins qu'il veut satisfaire en rue, il va vouloir être mobile. Et c'est ce qui est normal. Donc, il va être mobile, il va vouloir chercher quelque chose à manger. Il est difficile pour lui donc de se fixer sur le temps, l'espace et même lorsque vous proposez cet accompagnement-là, étant donné que certains enfants vont jusqu'à ce que nous appelons l'auto-exclusion, donc des enfants qui s'excluent de la démarche proposée du vécu traumatique, je reviens toujours sur là, et ça devient donc compliqué pour nous de pouvoir les accompagner. Heureusement, nous avons en amont, nous établissons une relation d'aide avec ces enfants, donc une relation de mise en confiance qui nous permet à chaque fois, lorsque nous allons vers eux, par notre principe d'aller vers ces enfants, nous fouillons partout, dans la mesure du possible, où est-ce qu'on peut les retrouver pour notre travail. Voilà, madame, les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre exercice. Un autre défi, c'est celui de la médiation familiale, en fait, pour certains enfants. Pour certains enfants dont les familles sont dans des contrées lointains, et c'est très difficile pour nous de pouvoir accéder à ces familles-là.
Comment est-ce que vous réussissez à surmonter toutes ces difficultés que vous venez de citer?
On passe sur notre centre que nous avons, le PUSIP, qui a pour rôle la remise en fonction de tous ces rapports que les enfants perdus en rue, à travers les activités que nous avons mises en place ici, donc les activités à visée thérapeutique pour ces enfants. Nous avons aussi des réunions d'analyse des cas que nous menons chaque deux jours dans la semaine. Donc, c'est des réunions où nous étudions en profondeur la situation de chaque enfant parce que nous avons une démarche individualisée. Et ces réunions nous permettent de pouvoir poser des CAT, donc des questions à suivre pour travailler avec ces enfants. Et au bout de cela, nous arrivons quand même à pouvoir les prendre en charge.
Monsieur Arlen Tonta, vous, en tant que directeur des opérations, est-ce que vous êtes aussi confronté à certaines difficultés?
Oui, les difficultés ne manquent pas. Principalement, elles sont liées aux activités de terrain, aux activités de prise en charge, comme vient de mentionner mes prédécesseurs. Mais je parlerai, par exemple, d'un défi qui est celui d'assurer un continuum de prise en charge année après année. Comme on l'a dit, nous sommes là depuis 2006, à peu près. Et il faut donc avoir des fonds année après année, voire continuer à proposer ces paquets de prise en charge aux enfants. Et donc ça, c'est vraiment un défi que nous devons surmonter.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Je veux revenir vers le psychologue, M. Bissikouni. Après la prise en charge, est-ce que vous avez déjà reçu de bons résultats du travail que vous faites de la prise en charge médicale ou psychosociale?
Oui, madame, vous savez, s'il n'y avait pas ces résultats-là, on croiserait des pas. Parce que ce que nous faisons, en fait, on le fait avec un cœur. Et c'est parce qu'il y a ces résultats-là, voilà pourquoi nous continuons à exercer. Évidemment, comme le disait le docteur, les résultats sont palpables déjà sur notre territoire de la ville de Pointe-Noire. Nous sommes déjà connus déjà du public, ce qui montre d'ailleurs que notre travail a des bons fruits. Et précisément, en parlant de la prise en charge psychosociale, tout à l'heure, je venais de vous dire que lorsqu'on a fini de travailler sur la stabilité de chaque enfant, nous aboutissons à un projet qui peut être un projet de retour en famille, un projet de repartir à l'école ou d'une réinsertion socio-professionnelle. Et c'est à partir de là que nous mesurons notre fruit du travail que nous exerçons au quotidien. Et par là, madame, je peux vous rassurer que nous sommes contents de ce que travail, même s'il y a beaucoup à faire parce que le phénomène ne cesse de prendre l'ampleur, mais je peux vous rassurer que les résultats sont là.
Merci. En fait, ce que vous venez de dire rejoint la préoccupation d'Alphonse Mbouaki, notre auditeur, qui se demandait si après cette prise en charge, les enfants réintègrent parfois le toit familial et deviennent utiles à la société. Est-ce que vous avez des exemples des enfants qui ont réintégré le toit familial ou sont repartis à l'école de façon effective? Donc, de vous trois, n'importe qui peut répondre.
Déjà, pour commencer, actuellement, au moment où nous parlons, actuellement, nous sommes sur un projet de 7 enfants qui doivent repartir à l'école à travers nos centres partenaires que nous avons. Et là, donc, ils sont déjà préparés, c'est leur projet de sortie de rue. Ça, c'est un exemple parfois que nous pouvons évoquer actuellement et qui est vérifiable. Au moment où nous parlons, ils sont déjà préparés. Et nous avons aussi plein d'exemples. Peut-être le directeur des opérations va vous donner des chiffres de retour en famille qui pourront peut-être ajouter ces chiffres.
Et Monsieur Ntonta, quand les enfants repartent à l'école, qui supporte leurs frais?
Déjà, il faut dire que là, on va parler de la sortie de la rue d'un enfant. Donc, un enfant a un projet de sortie de rue. Et s'il a en âge d'être scolarisé, nous travaillons d'abord dans le sens d'un retour en famille. C'est ça la priorité. Et quand c'est possible, l'enfant est en famille. Et donc, c'est la famille, effectivement, qui prend en charge la scolarité de l'enfant. Lorsque le retour en famille n'est pas possible, nous tournons vers nos partenaires. Donc, ce sont des centres partenaires, ce sont des hébergements partenaires, l'église à Côte Noire, où l'enfant sera orienté avec le concours de juge pour enfants, provisoirement, voilà, le temps de pouvoir poursuivre avec la médiation, voilà, avec sa famille. Et une fois dans ce centre partenaire, c'est cette structure qui prend le relais, voilà, du travail que nous avons annoncé.
Comment vous faites connaître vos activités? Comment vous joindre?
Ok, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, c'est la société Côte d'Ivoire. Nous avons aussi récemment mis en ligne notre site internet. Et aussi à Côte d'Ivoire, notre adresse, nous sommes à l'arrêt Bondy, hein, de la route vers Chimamba, hein, juste derrière SM Plasso. Et voilà un peu l'adresse que je peux communiquer, comment effectivement nous contacter.
Okay. Et aussi à cela, je peux ajouter maintenant, oui, au niveau du service social, nous avons un réseau d'animation donc, et de plaidoyer. Donc, ce réseau-là a pour but de pouvoir véhiculer en fait l'action que nous menons ici au service social auprès des pouvoirs publics, des autorités que nous avons. Et quand on parle des autorités, en fait, on touche même par là toute la population de la ville, parce que dans les autorités, on voit les chefs de quartier, les leaders communautaires. Et voilà, même, on a une action de sensibilisation que nous menons à chaque année avec ces autorités-là. Donc, c'est un moyen aussi de véhiculer notre action et de partager l'ensemble de notre travail au quotidien ici au Sénégal. Je vous parlais d'une relation, en fait, de mise en confiance. Lorsque nous allons, la première des choses, c'est cette relation qu'il faut bâtir avec les enfants, la mise en confiance. Heureusement, je peux dire heureusement, parce que, vous savez, ces enfants en rue, ils sont stigmatisés et abandonnés à eux-mêmes. Mais nous, lorsque nous partons avec les enfants dans leur milieu de vie, c'est pour en partir avec eux. Donc, à partir de là, les enfants comprennent aisément le sens de notre aide. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir entrer en contact, discuter avec eux, nous raconter leurs histoires personnelles, leurs souffrances. Je dirais même avec... c'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu réticents par rapport au degré de la souffrance, mais je dirais avec facilité pour ceux qui sont connus de notre étude.
Merci. On va terminer avec M. Arnaud Tonta. C'est une question de Alphonse Mbouaki qui veut savoir qu'il y a aussi des enfants dont vous prenez la charge et qui bénéficient d'une formation professionnelle.
La réponse est oui. Et d'ailleurs, actuellement, nous mettons en œuvre un projet qui a aussi comme activité la formation professionnelle des jeunes et l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, nous avons commencé avec un projet pilote en 2016 jusqu'en 2018. Et là, nous avons voilà, un nouveau projet. Et, donc, les jeunes de 16 à 24 ans donc, bénéficient donc, de ces formations. Et il convient quand même de rappeler que ce n'est pas toujours facile pour un jeune qui vit de la rue désocialisé de se projeter vers un avenir hors de la vie de la rue. Voilà. Donc ça demande un travail au préalable et c'est mieux que lorsque les jeunes sont dans cette capacité de se projeter vers cet avenir et ça, c'est le moment-là nous l'accompagnons. Donc oui, effectivement, les projets en cours financent ou prennent en charge la formation des jeunes.
Vous faites aussi des efforts pour que ces enfants retournent dans leur famille?
Oui, effectivement, c'est d'ailleurs c'est l'un des droits des enfants. Voilà. L'enfant a le droit d'appartenir à la famille, de vivre avec sa famille. Et c'est d'abord cette action qui est menée lorsque l'enfant est même le souhait de ne plus vivre dans la rue. Voilà. Et d'ailleurs, chaque année, on a souligné les chiffres, en moyenne, on a au moins 60 enfants qui sont raccompagnés en famille. Et, donc notre priorité, c'est d'abord ça, que les enfants, qu'on travaille sur, on rétablit d'abord les liens familiaux, puisqu'on avait dit hein, que ce sont des enfants qui sont en situation de rupture avec leur famille. Donc le travail vise d'abord à semer le lien, à rétablir ce lien, à faire la maison familiale pour que l'enfant reparte en famille.
Fin de ce programme Votre santé, votre avenir, qui était axé sur la prise en charge médicale et psychosociale des enfants de la rue à Pointe-Noire en République du Congo. Nous avions reçu un panel d'experts du SAMU social Pointe-Noire, composé de M. Arlen Tonka, directeur des opérations, du psychologue Herrera Bissipoumounou et du docteur Arnaud Gali. Ce programme santé vous a été présenté par Nani Tetalani. Il a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Better lock your door.